France Culture avec philosophie Géraldine Mühlmann.
Cette semaine, nous évoquons l'œuvre de Denis Diderot, qui était sans doute le philosophe le plus audacieux des Lumières françaises. Tout de suite, le point décisif, Diderot, philosophe athée et matérialiste. Fils d'un coutelier et d'une fille de tanneur, né dans l'est de la France en 1713, Diderot a échappé à la fonction de chanoine qui devait lui revenir à la mort de son oncle parce que cet oncle avait mal fait son testament. Il n'en faut pas plus au jeune Denis pour filer à Paris, étudier la théologie et la philosophie et pour apprendre l'anglais et ainsi connaître les penseurs empiristes d'outre-Manche. Diderot glisse alors doucement, d'abord vers le déisme, c'est-à-dire l'idée d'un dieu non pas personnel mais seulement principe premier, puis vers l'athéisme pur et simple, adossé à l'idée que tout l'univers n'est que matière. En 1749, sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient lui vaut 3 mois d'emprisonnement dans le donjon de Vincennes, tant sa mécréance est insoutenable pour l'époque. Pendant son incarcération, la police cherche à son domicile des manuscrits à détruire. Diderot en tirera la leçon. Oui, il dirige l'œuvre collective immense qu'est l'encyclopédie, mais ses textes personnels, il ne les publiera plus systématiquement. C'est à la postérité qu'il les destine. Voilà pourquoi, entre autres raisons, la pensée de Diderot a mis du temps à être bien connue. D'autant que l'audace de Diderot s'exprime aussi dans la forme, avec des textes dialogués, bourrés d'incises. Il faut de l'attention, il faut y revenir souvent, y compris pour bien saisir la radicalité de son athéisme et de son matérialisme, qui sont l'objet de ce premier épisode. Bonjour Annie Ibrahim.
Bonjour.
Philosophe, vous êtes membre du groupe d'études du matérialisme rationnel. Vous avez publié chez Vrin, Diderot, un matérialisme éclectique. Et au PUF, Diderot et la question de la forme. Et bonjour François Pépin.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la philosophie des Lumières et vous avez notamment publié aux éditions Garnier en 2023, Diderot, philosophe des sciences.
Ne me dites pas que vous quitterez ce voile sans remords. Ces vêtements qui vous ont lié à Jésus.
Si, madame, parce que je les ai pris sans liberté. Oh, je voudrais les déchirer, les jeter loin de moi.
Que dirons-nous, sœur? C'est donc un parti pris, vous voulez vous perdre?
Je veux sortir d'ici.
Mais si c'est la maison qui vous déplaît?
C'est la maison, c'est mon épaisse, la religion. Je ne veux être enfermée ni ici ni ailleurs.
Mon enfant, vous êtes possédé du démon. C'est lui qui vous fait parler, voyez dans quel état vous êtes.
Non, madame, il ne soupçonnait pas.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Vous venez d'entendre un extrait du film La Religieuse, réalisé en 1966 par Suzanne Simonin, à partir du roman de Diderot qui porte ce titre, La Religieuse, et qui a été publié de manière posthume. Alors, l'enfermement, je viens de le dire, Diderot savait ce que c'était, il l'a connu. Est-ce que pour lui, les couvents non désirés sont tout à fait analogues à des prisons, Annie Ibrahim?
Oui, je crois que le mieux, c'est de donner très brièvement la parole à Diderot dans un dialogue très enlevé, très gai, comme il aimait les écrire. C'est l'entretien avec une grande dame, la maréchale, dont on lira, je crois, un texte un peu plus tard. Mais très rapidement, ce dialogue s'ouvre sur la question de la maréchale. « N'êtes-vous pas monsieur Diderot ?»« Oui, madame. »« Est-ce donc vous qui ne croyez rien ?» Moi-même. Quoi ? Vous ne pillez point ? Vous ne tuez point ? Vous ne volez point ? Très rarement. Et un peu plus loin, alors que la maréchale fait état d'un christianisme de bon aloi, un peu un christianisme de confort, Diderot lui répond, lorsqu'elle a défini Dieu comme étant un esprit, Diderot lui répond, Si un esprit fait de la matière, pourquoi de la matière ne ferait-elle pas un esprit ? D'emblée, athéisme et matérialisme sont le leitmotiv de la pensée de Diderot, sur quoi il ne cédera jamais.
Je tiens à dire à nos auditeurs que Annie Ibrahim a évoqué ce dialogue entièrement de tête. Elle n'a aucun texte devant elle. C'est admirable. Vous nous avez fait vivre cette maréchale de Breuil, dont nous parlerons tout à l'heure, et Diderot dans un dialogue tellement explicite. Alors, revenons quand même au couvent. Certains disent, non mais bon, il n'était pas totalement contre les couvents. Il était contre les couvents enfermant des femmes qui n'avaient aucune envie d'y être. Ce que vous venez de dire, Annie Ibrahim, montre que la critique est franchement radicale. C'est-à-dire que le christianisme, François Pépin, ne s'en sort pas indemne du tout.
Oui, non, là, je crois qu'il n'y a pas de demi-mesure par rapport au couvent sous la plume de Diderot. Et bien sûr, on peut distinguer des situations avec enfermement forcé par les parents, de situations où les femmes croient s'enfermer librement, mais de toute façon, l'institution qu'est le couvent est critiquée. C'est un des textes les plus puissants de ce point de vue-là, la religieuse, au XVIIIe siècle. Mais on peut aussi poser la question générale de la manière d'écrire au XVIIIe siècle. Il y a des lieux d'enfermement aussi pour les auteurs, comme Diderot. Et quand Diderot écrit ce genre de choses, il ne peut pas le publier ouvertement. Et donc on a à la fois la critique de certains lieux d'enfermement et aussi la peur d'être soi-même enfermé, empêché d'écrire. Donc il y a cette espèce de circularité ici. On peut pas dénoncer ces choses-là publiquement. Il faut faire extrêmement attention. Il y a des textes dans l'encyclopédie qui vont aussi critiquer un certain nombre de choses, mais à mots plus feutrés. Et là, dans la religieuse, le texte... C'est un texte romancé, donc c'est un texte qui ne va pas poser des affirmations théoriques, mais la mise en scène est, je crois, très très claire du point de vue de la critique. Oui.
Parlons un peu de ce donjon de Vincennes. Oui. Il y avait du monde là-dedans, il y avait beaucoup d'écrivains, on les gardait combien de temps parfois ?
Alors, on pouvait les garder indéfiniment, c'est ça que Diderot va éprouver. Il ne va pas rester très longtemps, il va rester 3-4 mois, mais c'est qu'on ne lui dit pas combien de temps il va rester, il ne sait lui-même pas. Si ça va durer très longtemps. Et il y a des stratégies qui sont des stratégies, on peut dire, affreusement efficaces, qui consistent à vous enfermer en attendant que vous passiez aux aveux. Parce que Diderot, dans un premier temps, dit « mais c'est pas moi qui ai écrit ça », etc. Bon. Et les services de police et d'enfermement étaient redoutables. Ils se sont dit « ok, on va vous laisser là et on va attendre que vous-même, vous finissiez par avouer ». Donc ça veut dire qu'on a affaire à des lieux qui sont dans un espèce de spectre assez... effrayant pour celui qui y rentre, parce qu'on ne sait pas quand on sort, on ne sait pas si on va pouvoir sortir. Alors, de fait, Diderot n'y passe donc que 3 ou 4 mois.
Pourquoi ? Parce qu'il y a des libraires qui vont...
Alors, il y a les libraires, il y a le soutien donc d'une partie aussi du Conseil royal qui veut que l'encyclopédie ait lieu. Il y a aussi cette idée qui est importante dans le christianisme, mais aussi en partie dans... le système judiciaire de l'époque du pardon. Diderot dit qu'il ne le fera plus jamais. Il ment éhontément, mais il n'a pas le choix. Et par ailleurs, il est considéré comme un jeune dangereux, mais encore jeune. Donc on se dit qu'il y a peut-être quelque chose de sauvable chez M. Diderot. De fait, ce ne sera pas du tout sauvable de ce point de vue-là.
Mais oui, il a quoi, 35 ans, 36 ans
Oui, on est en 49, il est né en 13. Il y a donc un faisceau de circonstances. Mais ça n'a pas empêché, on a quelques traces de ça, Diderot d'avoir vraiment peur. Il n'est pas du tout sûr de pouvoir s'affranchir de cela rapidement.
La lettre sur les aveugles, qui lui vaut cet enfermement, d'abord est-elle signée explicitement ou bien fait-il usage d'un pseudonyme pour pouvoir ensuite dire « ce n'est pas moi », etc., Annie Ibrahim ? Et puis surtout, contient-elle, dès ce jeune âge, l'ensemble de sa pensée athée et matérialiste, ou bien développera-t-il certains points par la suite ?
Je crois que dès la lettre sur les aveugles, Diderot est clair et radical. Bon, je crois qu'on peut le considérer, puisque ce terme est devenu un terme assez courant maintenant, et doit être considéré vraiment non seulement comme appartement aux lumières radicales, mais étant sûrement le plus radical. Des lumières radicales.
Oui.
Alors, dans la lettre sur les aveugles, donc, il évoque un certain nombre de problèmes philosophiques, comme le problème de Molineux, la question de savoir si on rend ce qui se passe si en opérant un aveugle de la cataracte, comment est-ce qu'il va voir les objets qui se présentent à lui, etc. Bref, mais surtout, vers la fin du texte, il donne la parole à l'aveugle, un aveugle mathématicien anglais, Saunderson. Et au moment où il va mourir, un pasteur vient appuyer et aider, ou prétendument aider, Saunderson, qui va critiquer la conception chrétienne, providentialiste, créatrice du monde. Et il va se présenter non pas comme un infirme, mais comme un monstre. Un monstre, c'est-à-dire quelqu'un qui fait irruption dans l'ordre général, dans l'ordre prétendu nécessaire, et qui va le bouleverser. Et là, il dit au pasteur, qui essaie de le soutenir, « Si je remonte à l'origine des temps, mes semblables étaient sans doute fort communs, et rien ne dit qu'ils ne vont pas encore continuer à se produire, etc. » C'est-à-dire qu'en tant que monstre, il n'est pas celui qu'on montre, mais celui qui montre, oui, et qui montre quelque chose de l'origine, c'est-à-dire la matière en train de se débrouiller, et de se débrouiller en jouant au dé. On reviendra peut-être sur, oui, cette métaphore, oui, très importante. Et donc en combinant des amas de matière qui tantôt s'adaptent et réussissent à vivre, tantôt ne s'adaptent pas et dépérissent, mais qui peuvent, dans l'infini de l'infinité des mondes, se reproduire et réapparaître. Donc il n'y a rien d'impossible en nature.
Et à la fois, et en même temps, il y a du hasard aussi, des rencontres de magma.
D'où l'importance.
Plus tard, il y aura de microcosmes qui se touchent, qui se remélangent, et ça peut produire plein de choses. Et
on n'a pas besoin d'un lieu. La métaphore du jeu de dés, sur, oui, lequel on, d'accord, reviendra sûrement.
Encore une fois, vous m'impressionnez beaucoup, Annie Ibrahim. Vous citez Diderot de tête, et puis vous aidez énormément à le comprendre. Alors, je voudrais maintenant qu'on précise un petit peu les concepts au XVIIIe siècle d'athéisme et de matérialisme. Alors l'idée que le monde est matière, elle existe depuis les épicuriens, c'est une idée dangereuse à l'époque moderne, mais elle ne s'accompagne pas nécessairement d'un athéisme strict. Chez les épicuriens, il y avait des dieux qui étaient très loin, c'est pourquoi on ne les percevait pas et on ne devait surtout pas les craindre, ils n'avaient pas d'action sur les atomes parvenant jusqu'à nous. Stricto sensu, c'est pas un athéisme, c'est juste des dieux un peu inutiles, tout au plus des exemples. Il y a donc des matérialistes non athées stricto sensu, peut-être pourrait-on évoquer aussi Gassendi à cet égard. Donc ça ne va pas forcément ensemble, François Pépin.
Alors ça dépend comment on regarde les termes, et il faut bien remarquer que ce sont d'abord des termes qui sont des accusations de la part de l'adversaire. C'est-à-dire que matérialisme et athéisme sont d'abord des mots pour condamner. Et, oui, souvent, du coup,
des insultes.
On peut aussi le dire, c'est des chefs d'inculpation, en fait. Hein. Et donc, très souvent, dans la littérature judiciaire ou chez les dévots de l'époque, on va faire des listes où athéisme et matérialisme vont souvent être associés avec aussi spinozisme, etc. Alors, nous, en tant qu'historiens de la philosophie, on peut au contraire considérer qu'il y a parfois des distinctions.
Mais à nouveau,
il peut y avoir des nuances. Oui. Mais ça va aussi dépendre de ce qu'on entend par athéisme. Parce que si on entend par athéisme, comme aujourd'hui, l'absence de Dieu, effectivement, chez les épicuriens, où la possibilité des dieux est là, chez, oui, Gassendi aussi. En revanche, si on entend par athéisme l'absence de dieu providentiel, ce qui est souvent quand même ce qu'on entend, oui, à l'époque, à ce moment-là, on peut considérer qu'un matérialiste est nécessairement athée. Alors, chez Diderot, ces nuances sont en fait assez claires, c'est-à-dire qu'il est clairement matérialiste. Alors après, il faudra qu'on précise que ça ne veut pas forcément dire qu'il a un concept très clair de matière, mais il est clairement matérialiste et aussi athée. Mais est-ce que ça veut dire qu'il part en croisade contre la religion? Et c'est là qu'à nouveau, il faut faire des distinctions. On a vu le cas du couvent. En revanche, dans l'entretien avec la maréchale, Diderot dit qu'il n'est pas prosélyte. Si la maréchale vit sa vie personnelle et morale en croyant, ça ne pose pas particulièrement de problème à Diderot. Donc en fait, c'est un athéisme qui va cibler ce qu'il faut critiquer. Et là, effectivement, comme Annie l'a dit, il y a une certaine radicalité de Diderot et ce qu'on peut laisser, je dirais, à une histoire culturelle qui, selon Diderot, intègre aussi des religions. Je ne crois pas que Diderot ait l'idée qu'un jour on supprimera les religions et que même ce soit absolument indispensable.
Alors, athéiste, donc merci de le préciser, François Pépin, ça veut dire atteinte à l'idée du Dieu personnel et providentiel, c'est surtout ça que ça veut dire. À cet égard, la grande figure philosophique héritée du XVIIe siècle, qui est le grand mouton noir des Lumières, c'est Spinoza. Spinoza pensait que le monde, enfin, si Dieu existe, c'est la nature elle-même. C'est donc un panthéisme. Et puisque athéisme veut dire pas de Dieu personnel et providentiel, c'est un athée. Est-ce que c'est un matérialiste ? Est-ce que toute la substance du monde est matière pour Spinoza, Annie Ibrahim ?
Je pense que Spinoza ne se pose pas exactement le problème en ces termes. Par contre, les héritiers de Spinoza, c'était dès la fin du XVIIe siècle, après la mort de Spinoza, c'est-à-dire les libertins du XVIIe siècle, ce qu'on appelle les libertins érudits,
oui,
vont s'emparer de Spinoza pour l'orienter non seulement dans le sens d'un athéisme franc, mais dans le sens aussi d'un matérialisme. Alors que on ne va pas ici débattre des adjectifs qu'on peut accoler à Spinoza, mais je pense qu'il serait plus juste de dire qu'il est en tout cas naturaliste.
Oui.
C'est un naturaliste moniste, c'est-à-dire qu'il y a une seule substance, très clairement, avec deux modes, l'étendue et la pensée.
Oui.
Donc, si on veut, la matière et l'esprit, mais il n'y a pas une affirmation claire de ce qui va s'appeler le matérialisme.
Celui-ci,
or,
oui.
C'est Diderot, oui, qui écrit l'article spinoziste de l'encyclopédie.
Et oui.
Et il fait allusion à ceux qu'il appelle les néo-spinozistes, auxquels visiblement il se joint. Et il dit que pour eux, bon, indépendamment des différences avec le spinozisme ancien, pour eux, les néo-spinozistes, la matière peut tout expliquer. Donc, c'est extrêmement clair.
Qui sont-ils ?
Alors, les néo-spinozistes, c'est Diderot lui-même. Oui. Ce sont les libertins donc, du siècle précédent. Et à l'époque de Diderot, c'est Lamétrie, d'Holbach, Helvétius. Il faut rappeler que tu parlais de l'emploi du mot matérialiste, effectivement, comme une insulte.
Alors, le « tu » va à François Pépin. J'adore quand les collègues se tutoient à l'antenne. Oui. Moi, ça ne me dérange pas du tout, mais ce n'est pas à moi. C'est pas à moi que ça s'adressait.
Mais c'est vrai qu'en 1740, on trouve sous la plume de Lamétrie, hein, dans un texte, pour la première fois, quelqu'un qui s'auto-désigne matérialiste. Et Lamétrie a une très belle formule, il dit « nous autres, bons et francs matérialistes
». Et francs, oui.
Francs matérialistes. Je crois que Diderot, même s'il a critiqué son ami Lamétrie, se reconnaîtrait dans cette formule, bons et francs matérialistes.
Bon, donc il y a quand même un petit cercle de philosophes radicaux, matérialistes, néo-spinozistes. Diderot n'est pas seul, François Pépin. Ils sont puissants, ils sont dangereux, comme dit le pouvoir. Ils sont nombreux ou, au contraire, isolés, fragiles, mal vus ?
Je dirais que l'idée qu'il y a un clan, un parti philosophique matérialiste puissant a été inventée après la Révolution française ou un peu avant chez ceux qui ont voulu les condamner. En fait, il y a des gens qui se connaissent, qui sont amis, comme Diderot et d'Holbach, des gens qui s'estiment et en partie se critiquent, mais qui ne sont pas vraiment connus, comme Diderot et Lamétrie. Il y a aussi la question de savoir si on peut publiquement se considérer comme proche des uns et des autres, ce qui n'est pas le cas. On est obligé publiquement de s'éloigner de Lamétrie, qui est le premier, on pourrait dire, chronologiquement. En revanche, il y a quand même des rencontres, il y a quand même parfois des travaux collectifs. Diderot corrige les textes de d'Holbach. D'Holbach, oui, a aussi une espèce d'atelier de production, de copies de manuscrits, soit d'ouvrages, une espèce d'impression clandestine à laquelle Diderot collabore, de même que Naigeon. Qui est encore un autre larron de la farce. Et en fait, on a quelque chose qui ne ressemble pas à un clan organisé voulant renverser le pouvoir, mais qui est un faisceau de rencontres qui, en revanche, du point de vue des effets, va avoir des effets stratifiés. C'est-à-dire que, par exemple, il y a l'encyclopédie qui est publique, qui est beaucoup lue, bien que les ouvrages coûtent très cher. Mais il y a aussi un certain nombre de textes de Diderot. On parlera du rêve de D'Alembert, je pense, tout à l'heure, qui sont connus de très peu de gens, parce que ça n'est pas publié. C'est un manuscrit qui n'a pas circulé.
Tout ça, c'est posthume.
Tout ça, c'est posthume.
Il sait très bien, depuis ce qui lui est arrivé après sa lettre aux aveugles, qu'il faut faire attention.
Ce qui a fait dire, d'ailleurs, à certains lecteurs de Diderot du 19e siècle, que Diderot appartient au 19e siècle. Parce qu'eux, ils vont avoir des textes. Alors, c'est surtout des positivistes qui voient dans Diderot on pourrait dire une belle bannière pour attaquer le pouvoir clérical, mais ils ont aussi l'idée que ces textes-là, non seulement par leur publication, mais par leur résonance, appartiennent un petit peu plus au XIXe siècle. En tout cas, au XVIIIe siècle, il y a des choses de Diderot que ses contemporains ne connaissent pas. Ce que nous aimons beaucoup chez Diderot, oui. Par exemple le rêve de D'Alembert, ça n'est pas connu des contemporains.
Alors nous allons y venir. Donc, juste dernier point pour que les choses soient bien claires. L'essentiel des Lumières européennes ne sont pas du tout athées. Elles sont déistes, c'est-à-dire elles pensent, n'est-ce pas, à Annie Ibrahim, qu'il y a un principe premier. Alors c'est peut-être pas un dieu personnel providentiel, mais il y a un principe premier. Et donc Diderot et ses amis matérialistes néo-spinozistes, c'est vraiment une branche radicale qui est loin d'être majoritaire. Vous confirmez ce diagnostic ?
Je confirme, oui, c'est une branche qui est minoritaire parce que dans la ligne justement du spinozisme dont vous avez à juste titre parlé, ce sont des philosophies résolument de l'immanence. Il s'agit d'un monisme et d'un monisme de l'immanence.
Un seul monde.
Je crois que si l'on voulait à tout prix, en étant fidèle à une histoire assez commune de la philosophie, assigner un transcendantal à la pensée de Diderot, ce qu'il aurait certainement récusé, je crois que le seul transcendantal qu'on pourrait lui assigner, c'est la métamorphose. La métamorphose des êtres les uns dans les autres, la métamorphose d'une espèce dans une autre espèce. Et seule la métamorphose caractérise ces mouvements des êtres les uns dans les autres, ces transformations, cette fermentation de l'univers dont il parle souvent.
Eh bien, merci pour ce mot, fermentation. C'est une transition toute trouvée. Nous allons maintenant entrer dans le détail de cette notion de matière qui était celle de Diderot. Qu'est-ce que c'est que la matière du monde ? Comment se fait-il qu'elle puisse être tantôt inerte, tantôt animée, sensible, voire créer des êtres pensants ? On ne sort donc jamais de la matière. Comment ça marche ? Écoutez ce très court extrait des Principes philosophiques sur la matière et le mouvement. C'est un des textes posthumes de Diderot. Il l'a écrit vers 1770, mais elle a été publiée après sa mort, en 1792, dans l'Encyclopédie méthodique. C'est une autre encyclopédie que celle qu'il a dirigée. Et c'était dans la partie dirigée, cette fois, par un certain Naigeon. Écoutez.
Quand j'arrête mes yeux sur l'amas général des corps, je vois tout en action et en réaction, tout se détruisant sous une forme, tout se recomposant sous une autre. Des sublimations, des dissolutions, des combinaisons de toutes les espèces, phénomènes incompatibles avec l'homogénéité de la matière. D'où je conclus qu'elle est hétérogène, qu'il existe une infinité d'éléments divers dans la nature, que chacun de ces éléments, par sa diversité, a sa force particulière, innée, immuable, éternelle, indestructible, et que ces forces intimes au corps ont leurs actions hors du corps. D'où naît le mouvement, ou plutôt la fermentation générale dans l'univers.
Annie Ibrahim, je reviens vers vous. Cette fermentation de la matière signifie qu'il y a de l'imprévu en elle. Vous parliez tout à l'heure de métamorphose liée à l'imprévu, je présume. C'est transcendant, ça, au sens où personne ne sait, personne ne maîtrise, il y a du hasard. C'est ça que vous vouliez dire ?
Oui, vous parlez d'imprévu et de hasard, c'est effectivement très juste. Vous avez évoqué tout à l'heure le fait que le matérialisme existe évidemment depuis longtemps dans la pensée philosophique. Vous avez évoqué Épicure. Or, nous savons, et c'est ce dont Diderot va hériter et qu'il va radicaliser, nous savons que pour les atomistes de l'Antiquité, et pour Épicure et Lucrèce en particulier, il y a deux phénomènes dans la nature, les atomes et le vide.
Oui.
Et les atomes tombent verticalement dans le vide. S'ils continuaient à tomber verticalement dans le vide, il n'y aurait jamais de rencontre, jamais de monde. Il faut donc introduire ce que Lucrèce nommera le clinamen, c'est-à-dire une déviation imprévue,
hasardeuse.
Hasardeuse. c'est-à-dire un aléa. Or, Diderot n'emploie pas le mot aléatoire. Par contre, il parle beaucoup des rencontres. On peut donc parler d'un matérialisme de la rencontre, je crois, chez Diderot, c'est-à-dire le fait que, à l'intérieur de la matière, il y a des molécules inaltérables et éternelles, comme il le dit, qui, elles, sont indivisibles, qui produisent par hasard une hétérogénéité de la matière, d'où émanent des corps, y compris des corps inédits, qui pourrait surgir à partir du mélange des espèces.
Alors le plus incroyable, mais j'ai l'impression que Diderot assume complètement, c'est qu'il peut y avoir des corps matériels inanimés, la matière inerte, et puis au hasard de rencontres avec d'autres atomes, puisque vous-même faites le lien avec l'atomisme des épicuriens, tout d'un coup la matière peut s'animer, peut sentir. Et puis ça peut produire une espèce qui sent, et puis même une espèce qui pense. Il n'y a pas de saut, c'est continu, c'est toujours la matière. Et c'est étrange, mais de l'inerte peut surgir du sensible et du pensant.
Oui.
Expliquez-moi ça, parce qu'effectivement c'est le point très difficile à comprendre. Comment cette table, un jour, avec tous ces atomes apparemment inanimés, pourra rencontrer d'autres atomes et produire, je ne sais pas, quelqu'un qui ressemble à Annie Ibrahim, quoi. Il y a quelque chose de troublant quand même.
C'est très troublant et je pense que ça reste troublant malgré ce qui n'est pas, je crois, une solution, entre guillemets, mais plus une hypothèse de la part de Diderot, mais une hypothèse qui a, comme le reste, beaucoup de radicalité, c'est que petit à petit, et ça va être accompli de manière définitive dans le rêve d'Alembert et dans les éléments de physiologie, Diderot va s'apercevoir qu'il y a une hypothèse plus féconde que toutes les autres hypothèses, et si elle est plus féconde, c'est donc qu'elle est justifiée et qu'on peut l'accepter. C'est l'idée que la matière est toujours déjà sensible et que, comme il le dit au début du premier entretien du rêve de D'Alembert, quand on frappe la pierre, quand le sculpteur frappe la pierre pour en faire une statue, il faut entendre la pierre crier. Il faut que la pierre sente. Et D'Alembert lui dit « mais ceci est dur à croire ». Et Diderot dit « mais pas du tout » et il va proposer une explication par la transformation justement du marbre en chair qui au fond est tout à fait simple. Mais il faut donc bien concevoir que entre l'atomisme de l'Antiquité puis le matérialisme mécaniste qui va hériter du mécanisme cartésien, Diderot va être orienté vers un matérialisme qu'on peut appeler organiciste, ou en tout cas un matérialisme qui affirme la sensibilité de la matière. Donc il va d'abord hésiter en se demandant si on peut dire que la matière, que la sensibilité est une propriété universelle de la matière ou un produit d'organisation. Et finalement, dès les années 1760, il va affirmer que la sensibilité est une propriété universelle de la matière. Et donc il ne partage pas avec Buffon la séparation matière morte, matière vivante. Il va écrire dans les marges dans l'article animal de l'encyclopédie, ce sera une écriture dans les marges du premier tome de l'histoire naturelle de Buffon, mais il va se séparer de Buffon sur cette affirmation de Buffon qu'il y avait matière morte, matière inerte, et matière vivante. Non, pour Diderot, la matière est toujours déjà sensible.
La question est de savoir à quel moment elle devient pensante, carrément, puisque c'est la vieille affaire qui, en France, au XVIIIe siècle, est héritée clairement de Descartes. Je rappelle aux auditeurs, ou je souligne auprès de ceux qui viennent de nous rejoindre, que nous parlons de Diderot cette semaine. Diderot, sans doute le plus audacieux des philosophes des Lumières françaises. Et ce matin, nous sommes vraiment sur le point décisif de cette audace. C'est un athée, un matérialiste. C'est plutôt rare dans les Lumières européennes. Et nous essayons de comprendre ce que Diderot entend par matière. Je suis en compagnie d'Annie Ibrahim et de François Pépin. François Pépin, pas besoin de Dieu, mais ça quand même pour un Descartes, ça aurait été mais hérétique, même pour un Descartes, c'est-à-dire que l'être humain, bon, il y a du sensible, les animaux, une partie de notre corps fonctionne comme celui des animaux, mais il y a un point dans l'homme qui est le fait qu'il pense, et ça c'est pas de la matière, ça c'est quelque chose qui nous a été donné par Dieu. Comment Diderot peut-il avec assurance remettre en cause cette position de Descartes?
Alors, je crois qu'il faut revenir à l'idée de matière hétérogène et au fait que dans les images, les propositions audacieuses de Diderot, il y a aussi une interrogation sur ce qui nous empêchait de penser quelque chose. Vous parliez de la table qui est devant nous, Diderot parle de la statue de Falconer, et nous avons tendance à considérer cette matière inerte parce que nous la ramenons à l'étendue, à l'occupe de l'espace. Donc c'est le concept cartésien de matière, la matière c'est de l'étendue. Et effectivement, si on pense à de l'étendue, on a l'impression qu'on a affaire à des parties juxtaposées, éventuellement combinées comme dans une machine, mais jamais de l'intériorité pensante. Mais à partir du moment où on a affaire chez Diderot à des matières hétérogènes, chacune ayant une force particulière, un système d'interaction, et surtout, à partir du moment où, comme Annie l'a rappelé, on a l'hypothèse de la sensibilité potentielle de la matière, on a non seulement une force, mais une force qui peut sentir quelque chose, sentir en un sens très faible, simplement avoir une espèce de, on pourrait dire, une espèce d'ouverture à ce qui l'environne. Il ne s'agit pas encore de ressentir des émotions. Et donc, ça ne résout pas le problème, mais ça nous montre aussi que si le problème est si radical, c'est parce qu'on a d'abord à accepter non seulement le dualisme substantiel de Descartes, mais le dualisme aussi conceptuel, où on a ramené la matière à de l'étendue et la pensée à de l'intériorité. Chez Diderot, on pourrait dire que l'ensemble de son travail va consister à nous amener à créer des passages là où on voyait des oppositions. Est-ce que, selon Diderot, et selon nous, ça résout tous les problèmes? Non. C'est clair que pour Diderot, clarifier une difficulté, proposer des hypothèses n'annule pas la nécessité de poursuivre l'investigation. Mais on pourra imaginer, chez Diderot, il y a un vrai travail de l'image, une espèce de construction des possibles à partir de l'image. On pourra imaginer des modalités par des processus comme la fermentation d'activation de la matière jusqu'à la pensée.
Alors, vous avez tous les deux fait référence à ce texte très important de Diderot, qui s'appelle « Le rêve » de D'Alembert, qui est un texte lui aussi publié de manière posthume, entouré de deux autres textes, un entretien entre Diderot et D'Alembert, et puis la suite de cet entretien. Bon, D'Alembert, c'est un penseur de l'époque. Diderot imagine qu'il fait un rêve extraordinaire, qui est raconté au médecin, un certain médecin qui s'appelle, je crois, Bordeux, par Mademoiselle de Lespinasse, qui raconte, mais c'est incroyable ce qu'il a rêvé, ce D'Alembert. Il a rêvé un énorme océan de matière où tout est possible, où les êtres circulent les uns dans les autres. Et le médecin dit qu'au fond, c'est pas tout à fait idiot ce rêve. Et puis par ailleurs, il y a beaucoup de commentaires lorsque D'Alembert est réveillé, notamment entre Diderot et lui. Alors je vous propose, pour commenter cet ensemble, d'écouter un passage de discussion entre Diderot et D'Alembert.
Il y a un procédé fort simple pour faire passer une force morte à l'état de force vive. C'est une expérience qui se répète sous nos yeux 100 fois par jour. Au lieu que je ne vois pas trop comment on fait passer un corps de l'état de sensibilité inerte à l'état de sensibilité active.
C'est que vous ne voulez pas le voir. C'est un phénomène aussi commun.
Et ce phénomène commun, quel est-il, s'il vous plaît?
Je vais vous le dire, puisque vous en voulez avoir la honte. Cela se fait toutes les fois que vous mangez.
Toutes les fois que je mange?
Oui, car en mangeant, que faites-vous? Vous levez les obstacles qui s'opposaient à la sensibilité active de l'aliment. Vous l'assimilez avec vous-même. Vous en faites de la chair, vous l'animalisez, vous le rendez sensible.
Vrai ou faux, j'aime ce passage du marbre à l'humus. De l'humus au règne végétal et du règne végétal au règne animal, à la chair.
Je fais donc de la chair ou de l'âme, comme dit ma fille, une matière activement sensible. Et si je ne résous pas le problème que vous m'avez proposé, du moins j'en approche beaucoup. Car vous m'avouerez qu'il y a bien plus loin d'un morceau de marbre à un être qui sent que d'un être qui sent à un être qui pense.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
La phrase clé est lâchée, c'est Diderot qui la donne, c'est pas D'Alembert, enfin dans ce dialogue fictif. Vous m'avouerez qu'il y a bien plus loin d'un morceau de marbre à un être qui sent que d'un être qui sent à un être qui pense. À partir du moment où on passe de l'inerte à la matière sensible, pourquoi pas la matière pensante. C'est un saut de plus, mais c'est pas vraiment un saut, c'est continu d'ailleurs dans son rêve d'Alembert, en tout cas c'est Mademoiselle de l'Espinasse qui raconte son rêve, aurait dit, bien quand lorsque j'ai vu la matière inerte passer à l'état sensible, ensuite rien ne doit plus m'étonner. Vraiment, Annie Ibrahim, rien ne doit plus nous étonner. On passe de la matière inerte à la sensible, et puis voilà, tout d'un coup, la matière se met à penser. Tout va bien.
Oui, ou plutôt, je crois qu'il faut continuer avec Diderot à s'étonner. Comme le disait François tout à l'heure, Diderot ne propose pas une solution dogmatique, définitive. Ce sont davantage des hypothèses. Vous voyez, ici, il dit « j'en approche beaucoup ».
Oui.
C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire, on n'a pas affaire à un système qui propose une solution définitive à un problème difficile comme celui du passage de la sensibilité à la pensée. Et en lieu et place d'un système, on a volontiers recours aux rêves, aux métaphores, à l'analogie. L'analogie dont on dit, Diderot dit ailleurs dans ses textes, qu'elle ne suffit pas en bonne philosophie, mais en attendant, l'analogie, le rêve, etc., permettent de trouver une vérité au moins provisoire. Mmh. Au moins provisoire. Donc, les pensées que nous formons ne sont rien d'autre que des prolongements de ce que nous sentons. Dans les éléments de physiologie,
oui,
Diderot affirmera très fortement « tout s'explique par le corps, je ne connais rien qui ne s'explique par le corps ».
Vous pensez, vous qui faites de l'histoire des sciences, François Pépin, que Diderot a anticipé la physique quantique, Diderot a anticipé les connaissances sur le cerveau, bah oui, c'est de la matière neuronale qui nous fait penser. Vous pensez que c'est un génie qui avait... 2-3 siècles d'avance.
Je me méfie de cette idée, à vrai dire,
oui.
Pour deux raisons. La première, c'est que quand on fait l'histoire des sciences, on se méfie du précurseur qui aurait, avant celui à qui on attribue communément une idée, anticipé cette idée. Il y a beaucoup de raisons de considérer que c'est souvent un rapprochement hâtif. La deuxième chose, c'est que l'idée d'un Diderot génial anticipateur a aussi été utilisée pour ceux qui lui niaient quelque chose d'autre. On dirait c'est pas très systématique, c'est pas très rigoureux, mais au moins il a anticipé. Moi, ce que je préfère envisager, c'est que Diderot ouvre des possibles et qu'il a une manière d'appeler à la science, à la fois pour nourrir ses possibles et pour les prolonger. Alors, de ce point de vue-là, l'idée d'une, on pourrait dire, d'une science qui travaille sur des hypothèses, sur des modèles d'activation de la matière, qui se concentre non seulement sur le cerveau, mais sur, on pourrait dire aussi, l'interaction des idées, sur la transformation de sensations en idées, etc., tout ce, j'oserais peut-être pas appeler ça un programme, mais disons, toute cette... on pourrait presque dire problématique scientifique, Diderot effectivement s'engage dedans, considérant que il y aura un travail philosophique à faire, mais aussi un travail scientifique. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il a anticipé ? Je pense que c'est plutôt à quelque chose qu'on pourrait considérer à l'inverse, c'est-à-dire qu'il a brisé des obstacles qui empêchaient d'ouvrir ces choses-là.
Il a ouvert
le possible intellectuel.
Il
a ouvert des voies. Alors, on le voit, par exemple, avec un rapprochement qu'on pourrait faire entre Diderot et Darwin.
Oui, j'allais le dire. Celui-là, pour le coup, c'est une vraie anticipation.
Celui-là, il est intéressant, oui. Mais en fait...
Racontez-nous.
Alors, en fait, il y a d'abord deux obstacles à ce rapprochement. C'est que la masse de données considérable que Darwin a à disposition, Diderot ne l'a pas. Et là, le deuxième obstacle, c'est que la théorie d'évolution, avec ses deux concepts clés, la variation et la sélection naturelle, on en trouve, si l'on veut, des embryons chez Diderot, mais on n'a pas exactement la structure. En revanche, sur deux points, il y a effectivement un rapprochement intéressant. Le premier, c'est que, et on en parlait tout à l'heure, le premier principe chez Darwin, c'est la variation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la règle, puis des exceptions, il n'y a pas la norme, puis des écarts. Le premier principe, c'est la variation. Et on trouve ça aussi chez Diderot. Alors, ça veut dire que...
La variation de la matière, vous voulez...
Alors,
rencontres...
variation, chez Darwin, c'est variation des espèces. C'est-à-dire que d'un individu à l'autre, et pour une espèce, à la fois d'un individu à l'autre dans une même espèce, entre différents individus, vous allez avoir des ressemblances, mais aussi des variations. Et génération après génération, vous allez avoir des enfants qui ressemblent à leurs parents, mais aussi avec des variations.
Oui.
Donc, il y a cette idée que dans une même catégorie, les êtres qu'on met dans cette catégorie ne sont pas identiques, mais varient, et que dans le temps, les êtres qui descendent d'autres êtres varient. Et en fait, Darwin ne cherche pas à expliquer ce premier principe, il le pose, il dit la nature
ça varie, c'est un principe de variation. Et on trouve ça aussi chez Diderot. Mais c'est une idée extrêmement audacieuse, parce que ça veut dire qu'on n'a pas d'abord une pensée des lois de la nature, on n'est pas d'abord dans l'idée que le changement s'explique parce qu'il est ramené à de la permanence, on a d'abord la variation. C'est extrêmement difficile d'accepter cette idée, parce que nous, on a envie de se demander, mais variation par rapport à quelle règle ? Variation de quoi ? Non, c'est d'abord la variation. Et là, chez effectivement Diderot et Darwin, on a quelque chose d'intéressant. Et peut-être qu'on peut ajouter un deuxième point, qui est qu'on a affaire à un nominalisme absolument radical.
Alors, parce nominalisme, ça veut dire expliquer.
Alors, le nominalisme habituel,
singulariser chaque.
C'est ça, c'est la méfiance envers l'idée selon laquelle derrière nos catégories il y aurait des êtres. Donc, par exemple, si je parle de l'animal, Annie Ibrahim parlait de l'article animal de l'encyclopédie, je peux imaginer que il y a un être qui serait l'animal. Alors là, on sait que ça a l'air d'être erroné, mais si je dis cheval, on pourrait penser que puisque les chevaux donnent des chevaux, il y a bien quelque chose comme un principe constant dans la nature. Mais le nominalisme de Diderot et Darwin, il est encore plus radical que ça, parce qu'ils vont considérer que il n'y a même pas d'espèce, même pas de race, même pas de sous-race, qu'en fait, la seule entité qui existe, c'est l'individu, mais en plus, les individus eux-mêmes varient.
Alors, on va prolonger ce point, notamment nous allons parler aussi du fait que homme ou femme, tout ça, c'est des variations à partir d'un même matériau, si j'ose dire. Des bourgeons, des organes sexuels chez l'embryon. Là aussi, c'est incroyable à quel point Diderot a anticipé ce qu'on sait maintenant de la formation des organes sexuels. Mais puisque vous évoquiez d'entrée de jeu le fameux dialogue de Diderot avec la maréchale de Breuil, revenons au problème de fond qui est comment de la matière produit du sensible, comment la matière produit du pensant. La maréchale y revient dans cet entretien fictif qui a été d'ailleurs publié, lui, mais de manière clandestine, dans un hebdomadaire édité en Allemagne pour échapper à la censure. Entretien d'un philosophe avec la maréchale 2, il ne donne pas son nom. Écoutez.
Mais ce monde-ci, qui est-ce qui l'a fait ?
Je vous le demande.
C'est Dieu.
Et qu'est-ce que Dieu ?
Un esprit.
Si un esprit fait de la matière, pourquoi de la matière ne ferait-elle pas un esprit ?
Et pourquoi le ferait-elle ?
C'est que je lui envoie faire tous les jours. Croyez-vous que les bêtes aient des âmes ?
Certainement, je le crois.
Et pourriez-vous me dire ce que devient, par exemple, l'âme du serpent du Pérou ? Pendant qu'il se dessèche, suspendu dans une cheminée, exposé à la fumée, un ou deux ans de suite.
Qu'elle devienne ce qu'elle voudra. Qu'est-ce que cela me fait ?
C'est que Madame la Maréchale ne sait pas que ce serpent, enfumé, desséché, ressuscite et renaît.
Je n'en crois rien. Encore une question. Et c'est la dernière. Êtes-vous bien tranquille dans votre incrédulité ?
On ne saurait davantage.
Pourtant, si vous vous trompiez...
Quand je me tromperais ?
Tout ce que vous croyez faux serait vrai, et vous seriez damné. Monsieur Diderot, c'est une terrible chose que d'être damné. Brûler toute une éternité, c'est bien long.
La Fontaine croyait que nous nous y ferions comme le poisson dans l'eau.
Oui, oui, mais votre La Fontaine devint bien sérieux au dernier moment. Et c'est où je vous attends ?
Je ne réponds de rien quand ma tête n'y sera plus. Mais si je finis par une de ces maladies qui laissent à l'homme agonisant toute sa raison, je ne serai pas plus troublé au moment où vous m'attendez qu'au moment où vous me voyez.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Et vous aurez remarqué que toute l'équipe d'Avec Philosophie a participé à ces lectures. C'est magnifique le dialogue, ça permet de tous parler. Axel Dubois, Shaima Gibouard et bien sûr Riyad Kerak, vous avez entendu. Alors Diderot, dans ce dialogue fictif avec une dame en fait qu'il a rencontrée à l'occasion de ventes d'œuvres d'art... Puisque si j'ai bien compris, il s'occupait des collections d'art de Catherine II et la maréchale de Breuil était soit une acheteuse, soit une vendeuse. Il imagine un dialogue avec elle. Annie Ibrahim, il ne doute pas. Ça, c'est extraordinaire. Diderot formule des hypothèses, il n'est pas à 100% certain, mais il n'a pas peur, il ne doute pas jusqu'à revenir un peu en arrière et se dire « Ah là là, peut-être que Dieu existe ». Non, ça non, c'est pas possible. Il tient, il est ferme. C'est troublant quand même d'être à la fois non totalement certain et quand même assez ferme pour ne pas revenir en arrière vers l'hypothèse de la foi. C'est troublant, je trouve.
Oui. C'est troublant, mais je crois que Diderot, effectivement, est très ferme. Il faut revenir à ce que disait François à propos de la question que vous posiez, la référence à Darwin. Diderot accorde que les corps physiques sont individués. Il y a une individuation des corps physiques. Oui. Par contre, il n'y a pas d'identité personnelle. Nous ne sommes pas des individus. Je crois que ce qui est fondamental dans la façon dont Diderot tient bon jusqu'au bout, malgré ce qui nous trouble effectivement sur ce qu'il dit, c'est que l'individu, comme il le dit ailleurs dans Le Rêve, l'individu n'existe pas. Il n'y a qu'un seul grand individu, dit-il, c'est le tout. Et encore faut-il penser que ce tout est une unité très curieuse, puisque c'est une unité qui change, qui peut se transformer, qui est ouverte, dans laquelle on peut voir apparaître des choses inédites. Mais nous ne sommes pas des individus, nous ne sommes que des tendances. C'est-à-dire qu'en nous, comme dans la matière, tout passe, tout change, tout se transforme. Et rien ne dit ce qui peut naître dans l'infinité des mondes.
Alors, il y a un point où, franchement, là, il est audacieux, magistralement, et puis il dit des choses qui, aujourd'hui, font sens vraiment dans la science. C'est ce qu'il dit des organes sexuels des hommes et des femmes. Dans Le Rêve de D'Alembert, il dit que, finalement, la femme, avec le clitoris, a son gland, son prépuce, je cite, « On remarque à son extrémité un point qui paraîtrait avoir été l'orifice d'un canal urinaire qui s'est fermé. Et de l'autre côté, dans l'homme, je cite encore, depuis l'anus jusqu'au scrotum, intervalle qu'on appelle le périnée, et du scrotum jusqu'à l'extrémité de la verge, une couture qui semble être la reprise d'une vulve faufilée. » Donc, c'est la même chose, finalement, ces organes, mais simplement, une chose s'est développée davantage dans un des sexes et moins dans l'autre, et inversement. C'est décisif, c'est inaudible pour son époque, non?
Effectivement, d'autant que ça aura des conséquences anthropologiques et politiques encore plus audacieuses que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Parce qu'effectivement, quand il dit que l'homme est le monstre de la femme et la femme le monstre de l'homme, à quoi ça tient? Ça tient au fait que Diderot ne veut plus entendre parler d'une conception de la génération et de la sexualité, qui était encore très forte à son époque, qui était la théorie de la préformation, à savoir que les germes existent de manière éternelle, ils existent de toute éternité, que dans les germes, les corps à venir sont préformés et n'auront plus qu'à se développer, c'est-à-dire à grossir. Or, pour Diderot, le germe n'est pas du tout le corps ou l'individu préformé qu'on va voir se développer. À partir du germe...
Ce que vous appelez le germe, c'est un peu le bourgeon. Quoi. C'est voilà, pas le germe au
le
sens
germe
de la bactérie.
Ou le bourgeon, hein, oui, si oui. vous voulez, le oui. germe ou le bourgeon.
C'est l'œuf.
C'est l'œuf, voilà. Oui.
Devenir un corps par épigénèse, c'est-à-dire par ajout de particules qui vont se rencontrer...
De manière imprévisible,
de manière imprévisible, oui. par hasard. Donc, c'est vraiment la rencontre oui. qui, là, est importante. Et vont donner tel ou tel corps, d'autant que ces corps pourront se mélanger. Si on reprend l'image de l'alimentation, là, qui est très drôle, au début du rêve, avec chaque fois que vous mangez, ça se fait. Donc
vous assimilez de la matière
étonnant.
Et vous changez.
Oui, et vous savez que le dernier passage du dernier entretien, du troisième entretien du rêve de D'Alembert, Diderot met en scène ce qu'il appelle des chèvres-pieds, c'est-à-dire des animaux qu'on va fabriquer en donnant assez souvent du pain à manger à une chèvre et du lait à boire à un être humain. Et si on accouple cette chèvre et cet homme, eh bien ça nous donnera des êtres finalement très intéressants, qui sont les chèvres-pieds, qui nous permettront d'atteler nos carrosses et nos chariots à d'autres que des esclaves, ce qui pose d'ailleurs un problème, le problème de savoir pourquoi ces chèvres-pieds sont plus méprisés que les serviteurs qui tirent nos calèches ou nos fiacres. Mais vous voyez, ce mélange, même quand il va sous la forme de la plaisanterie et de la métaphore et de cette image des chèvres-pieds, ce mélange, c'est vraiment la négation de l'histoire des essences, hein, essences fixes.
Il n'y a pas d'essence fixe.
Il n'y a pas d'espèce fixe non plus.
Toute petite conclusion pour vous, François Pépin, c'est un peu aberrant cette affaire des chèvres-pieds, et puis il y a quelque chose de sérieux, comme toujours chez Diderot.
Oui, tout à fait, mais c'est comme la transformation du marbre en chair, c'est-à-dire qu'il s'agit de penser sous forme de modèle des choses qui existent, qui peuvent sembler un peu burlesques, mais qui en fait ouvrent des possibles en nous amenant à repenser les choses, à enrichir les images. Donc en fait, c'est effectivement très sérieux tout en étant très drôle.
Laissez la parole finale à la reine Madonna. Life is a mystery, dit-elle au début de cette chanson si célèbre, Like a Prayer, de 1989. Oui, c'est un mystère, le plaisir notamment. Est-ce du divin? Est-ce juste du corporel, du matériel? Il y a beaucoup d'ambivalence, y compris dans le texte de cette chanson. Merci beaucoup, Annie Ibrahim et François Pépin, de nous avoir parlé de Diderot, de la matière et de son étrangeté, selon lui. La chronique de Frédéric Worms ce matin n'est pas totalement sans rapport avec notre sujet d'aujourd'hui, puisqu'il nous parle du plaisir, lui aussi, et de tous ses degrés. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi ressent-on du plaisir? Lorsqu'on ressent un plaisir, c'est toujours par surprise. Par exemple, j'ai faim et Je cherche à me nourrir, cela peut même devenir une urgence, un besoin. J'ai conscience peu à peu que cette souffrance peut devenir mortelle si elle se prolonge trop longtemps. J'ai faim, on me donne quelque chose à manger, quelque chose qui va satisfaire ce besoin. Et il se trouve que non seulement alors je n'ai plus faim, négativement en quelque sorte, mais que je ressens du plaisir, et même un plaisir qui peut avoir des degrés. Cela peut être plus ou moins agréable, cela peut être un plaisir plus ou moins raffiné, cela peut aller simplement de la cessation de la faim à un plaisir très raffiné. Je dis alors que j'ai mangé un mets délectable, que c'était un plaisir divin. Il y a des degrés dans le plaisir qui, d'une toute façon, doivent nous intriguer, mais on n'est pas assez étonné par l'existence même du plaisir. Bien sûr, Épicure, dans un geste majeur de la philosophie antique, Épicure avait montré, démontré que la cessation même du besoin, que le contraire de la peine était déjà un plaisir en soi. Autrement dit, que la vie n'est jamais neutre, que la vie était souffrance ou plaisir, et que quand la souffrance s'arrête, ce n'est pas simplement un acte stable, neutre, en quelque sorte, un acte blanc, où il y aurait juste le contraire et l'absence de la douleur. Non, l'absence de la douleur est déjà un plaisir, mais on ne s'en étonne pas assez, surtout que la cessation de la douleur elle-même est vraiment un plaisir qu'on pourrait dire minimal, un plaisir qui peut être absolument sans qualité. Je me réfère souvent au texte extraordinaire de Germaine Tillion dans son livre sur l'Algérie en 1957, où elle étudie les ravages de la misère dans la campagne algérienne et où elle se rappelle son expérience de déportation. Elle explique alors qu'il y a deux expériences de la faim, F-A-I-M, du besoin de se nourrir. Il y a une expérience justement où le plaisir a quasiment disparu. Une expérience de faim tellement radicale qu'elle est remplie de manière presque uniquement quantitative par la nourriture. Elle dit alors que seule la quantité compte, c'est de se remplir l'estomac, de ne pas mourir. Alors le plaisir est vraiment minimal et on peut dire bien sûr qu'il y a un plaisir, mais il y a en fait peut-être même ici la disparition, le degré vraiment zéro à presque absolument zéro du plaisir qui est simplement négatif, celui en quelque sorte de ne pas mourir. Mais dès qu'on sort de ce degré zéro du plaisir humain et on ne s'en étonne pas assez, le geste de se nourrir, par exemple, n'est pas seulement négatif et neutre, mais positif et qualitatif. Ce n'est plus seulement la quantité qui vient répondre à un manque, mais c'est la découverte d'une qualité. Aussi minimal soit-il, le plaisir est qualitatif. Il nous donne à rencontrer le contenu d'un objet, le contenu qualitatif d'un plat, d'un fruit, d'un légume, de ce que nous dégustons, d'une boisson qui va se distinguer d'un autre. Il y a telle eau par opposition à telle autre, elle est fraîche ou elle ne l'est pas. Nous pouvons distinguer, nous pouvons nous orienter dans le monde par des différences qui sont qualitatives, par la variété du monde, d'un monde qui est vivant non seulement en nous, mais dans les choses et en lui-même. Et le plaisir nous découvre en réalité la dimension relationnelle de la vie, la découverte des différences, la découverte du monde lui-même dans sa diversité. Alors bien sûr, il faut s'orienter dans cette diversité des plaisirs, mais on sait déjà une première orientation qui est le risque de la quantité, le risque que le plaisir se réduise à son degré zéro dans l'absence ou dans la radicalité du besoin et de la détresse, ou bien au contraire de concevoir l'accumulation quantitative des plaisirs. Non, le plaisir a quelque chose de qualitatif. Le plaisir, c'est la différence entre les plaisirs. C'est peut-être l'un des problèmes, l'une des jouissances, mais aussi l'un des risques de l'humanité dans lequel il faut savoir s'orienter.
Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique Anthony Thomasson et elle a été préparée en particulier par Axel Dubois, mais aussi par toute l'équipe d'Avec Philosophie que je remercie. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.